8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Laurence Garcia.
Bonjour et bienvenue à vous les voisins et les voisines. En Europe, près d'un enfant sur cinq est victime de violences sexuelles. En France, un enfant est agressé sexuellement toutes les 3 minutes. Derrière ces chiffres, des attouchements, des viols ou des incestes et surtout un gros tabou et la peur de ne pas être cru, surtout quand l'agresseur est un ami de la famille ou un parent. Comment libérer la parole et leur apprendre à dire non, ton corps t'appartient? Comment protéger et prévenir les enfants des violences sexuelles? Et avec quels mots peut-on parler de consentement avec les plus jeunes? On en cause avec vous, bien sûr, qui nous écoutez et nos invités. Bonjour Lolita Rivé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeure des écoles. Comme veut la loi 2001 en France, vous avez instauré des cours d'éducation affective, relationnelle et sexuelle à vos élèves de CE1. Des séances d'ailleurs que vous avez enregistrées pour une série de documentaires. Podcast, c'est quoi l'amour maîtresse? J'aime beaucoup le titre à écouter sur Binge Audio. Bah justement, vous qui êtes sur le terrain, vous nous direz bah, quels sont les mots, comment vous parlez consentement à des enfants qui ont
7 ans.
Voilà. Avec nous, Johanna Smith, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne, formatrice et enseignante à l'Université Paris-Descartes, autrice du livre « Protéger son enfant des violences sexuelles » aux éditions d'Uno, et c'est aussi le nom de votre podcast. On dira et on en parlera avec vous, c'est un guide de prévention à destination des parents pour détecter les situations à risque, même si on sait très bien que le risque zéro n'existe pas. D'ici une vingtaine de minutes, nous serons en ligne avec Prince Trabi. Il est psychologue clinicien à l'association Psytrotteur à Abidjan, en Côte d'Ivoire, une association qui intervient dans les collèges et les lycées pour libérer aussi la parole. Et puis bien sûr, vous qui nous écoutez, que vous soyez parents ou profs, on attend vos témoignages sur le sujet au 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins et de voisines.
Les pays les plus éloignés aujourd'hui, on sait tout ce qui se passe au bout du monde.
8 milliards de voisins et la planète se parle.
Et comme chaque semaine, c'est l'heure de retrouver l'école autour du monde. C'est notre chronique de l'actualité, de l'éducation. Et aujourd'hui, c'est Najette Benrabah, notre correspondante à Medellín en Colombie. Bonjour Najette.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
Alors, comment s'organise chez vous là-bas l'éducation et la prévention contre les violences dans les écoles en Colombie?
Alors, eh bien, en général, dans les écoles, ce sont ce qu'on appelle ici les secrétariats de l'éducation qui organisent donc des interventions pour sensibiliser sur le thème. Par exemple, à Bogota, on s'adresse aux professeurs d'abord en particulier. Des centaines de collèges proposent ce type de conférences. Ce sont en fait comme des séminaires qui ont pour but l'amélioration de la gestion des cas de violences sexuelles contre les enfants et adolescents dans les établissements d'enseignement public. On y aborde en fait 3 thèmes. Le premier, que doit faire un enseignant qui découvre un cas de violence sexuelle contre un enfant? Ensuite, ce que dit la loi? On leur explique donc l'approche pénale en Colombie. On parle de délits de violence sexuelle contre les enfants, adolescents et les jeunes. Et puis enfin, on explique quelles démarches disciplinaires entamer. Bien sûr, les mêmes types de conférences et interventions sont proposées aux enfants. On leur enseigne comment reconnaître un cas de violence sexuelle et bien sûr, les démarches à entreprendre pour le dénoncer. L'an dernier, dans le sud de Bogota, la capitale de Colombie, une fillette de 10 ans, par exemple, a pu identifier qu'elle avait été maltraitée lors d'une de ses conférences sur l'éducation sexuelle. Selon le bureau du procureur général de la Nation, eh bien, à au moins 20 reprises, elle aurait été victime de violences sexuelles. Elle aurait eu des relations avec l'ex-petite amie de sa mère. Cela aurait duré plus de 5 mois. L'agresseur a été arrêté quelques heures après la conférence et inculpé pour délit sexuel contre une enfant de moins de 14 ans.
Ouais. Et malheureusement, Najette, hein, ces délits sont très communs hein, en Colombie.
Oui, j'ai toujours entendu en Colombie depuis que je suis arrivée ici en 2015 que le pays a une dette envers ses enfants. Les agressions contre les enfants et la pédophilie font partie de leur quotidien. Pour vous donner un peu une idée, selon les statistiques de la police nationale, l'année dernière, entre janvier et août, près de 8300 délits sexuels ont été commis contre des mineurs. Dans la même période, d'après le ministère public, l'Institut national de médecine légale a procédé à près de 12 900 examens médicaux légaux pour des délits sexuels présumés contre des enfants et adolescents.
Alors, c'est donc un phénomène qui ne cesse de s'aggraver en Colombie?
Oui, et ce n'est pas moi qui le dis d'ailleurs, mais le défenseur du peuple. D'après cet organisme, cette violence sexuelle a connu une croissance exponentielle depuis 2010. D'ailleurs, récemment, un film a fait parler de lui, réalisé par Mel Gibson, sur l'exploitation sexuelle d'enfants en Colombie, Sound of Freedom, le bruit de la liberté. Inspiré de faits réels, il racontait le démantèlement d'un réseau de prostitution de mineurs en Colombie, ce qui est malheureusement toujours d'actualité, puisque en février cette année, plus de 100 personnes ont été arrêtées pour des délits sexuels commis contre des mineurs en Colombie, et la police nationale a appréhendé 11 délinquants internationaux pour pédopornographie.
Voilà, et pour terminer, d'ailleurs, dernièrement, Najat, une autre affaire a fait beaucoup de bruit à Medellín. Hein.
Oui, elle a fait même la une des journaux. Écoutez cet extrait.
Hasta este hotel del barrio El Poblado en Medellín llegó la policía porque un ciudadano denunció que dos menores de 12 y 13 años estaban siendo explotadas por un ciudadano americano en una habitación.
Sí. Alors on entend en fait dans ce son une journaliste qui annonce qu'un Américain a été interpellé dans un hôtel de Medellín. Il était avec deux jeunes filles mineures dans un jacuzzi. Elles faisaient partie d'un réseau de prostitution. Elles avaient 12 et 13 ans. Et depuis quelques années, depuis la fin de la pandémie, eh bien, ce type de prostitution a augmenté et c'est devenu une priorité pour les autorités. La semaine dernière, donc à Medellín, le maire a décidé de fermer restaurants, bars et discothèques de la ville plus tôt et interdire la présence de prostituées dans le quartier le plus touristique de la ville, car réellement, vous ne pouvez pas faire deux pas dans le quartier Poblado sans croiser une prostituée et bien sûr souvent très jeune. Je terminerai avec une statistique qui résume un peu la gravité du thème en Colombie. Eh bien, l'an dernier, chaque heure, 5 enfants ou adolescents ont été victimes d'un type de violence.
Merci beaucoup Najat Benrabah, notre correspondante à Medellín en Colombie. Autre chiffre, hein, je le disais, en France, c'est un enfant qui est agressé sexuellement toutes les 3 minutes. Preuve que c'est un fléau mondial. Je vous voyais écouter, prendre des notes en écoutant notre correspondante. Vous vouliez peut-être réagir, Lolita Rivet, Joanna Smith.
Non, il y a juste un terme arrivée. Qui m'a un peu écorché l'oreille, c'est quand on parle de relations. Sexuelle dans le cadre de violences sexuelles, il n'y a pas de relation. Voilà. Un enfant n'a pas de relation sexuelle avec un adulte, ni l'inverse d'ailleurs. Un enfant est agressé sexuellement, il est violé. Voilà. C'est une façon aussi de continuer à mettre du consentement là où il ne peut pas, il ne peut pas y en avoir.
Ouais. Voilà. Ce qui est intéressant aussi avec vous, Joanna Smith, c'est que vous êtes psychologue, on l'a dit, vous avez travaillé à la fois au contact d'agresseurs sexuels qui étaient en obligation de soins et aussi auprès des adultes victimes de violences sexuelles ou autres. C'est assez inhabituel ou pas d'ailleurs, ce double regard, cette double
angle ?
Oui,
c'est plutôt inhabituel. Oui. Ça s'est beaucoup amélioré, mais quand j'ai commencé il y a 25 ans à travailler avec des agresseurs sexuels, en fait, nous, les professionnels, travaillons auprès de ce public et étions un petit peu mal vus, je dois dire, comme si ça voulait dire qu'on était de leur côté. Alors que bah, ce n'est pas le sujet, en fait. Le sujet, c'est de lutter contre les violences sexuelles et comment est-ce qu'on peut prévenir la récidive. Sans travailler avec ces hommes-là, ça me paraît quand même un petit peu compliqué. Et je pense qu'on est encore dans une perspective très punitive qui n'a pas du tout fait ses preuves. J'ai fait une partie de mes études, j'ai eu la chance d'être en stage en milieu carcéral au Québec, où là, on considère tous les aspects du problème. Quels sont les problèmes médicaux de cette personne? Quels sont ses problèmes sociaux? Son problème, est-ce qu'il a des problèmes au niveau professionnel, au niveau psy? Et donc, il va être évalué, entre guillemets, sous tous ces aspects pendant une période de 2 mois, s'il y a plus d'un certain nombre de... Je crois que c'est 3 ans d'incarcération ou 2 ans. Et ensuite, la peine va être planifiée en fonction de ça. Et quand on prépare la sortie, et les personnes qui vont être l'entourage du prisonnier, en fait, à la sortie, que ce soit un délinquant sexuel ou d'un autre type de délit ou de crime, ces personnes s'appellent des ressources. Donc les ressources ça va être Québec, ouais. Comment construire la prévention de la récidive en s'appuyant sur les proches. On n'en est pas du tout là en France.
C'est ça. C'est quoi l'amour maîtresse? C'est le titre de votre podcast pour libérer la parole de vos élèves de CE1. On écoute la bande-annonce qui donne très très bien le ton d'ailleurs, je trouve, de vos cours.
Est-ce que vous connaissez le nom des parties intimes de votre corps?
Ah oui, la partie là, le zizi.
Cette année, avec ma classe de CE1, j'ai décidé de passer aux choses sérieuses. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de votre corps.
Alors, le thème d'aujourd'hui, ça va être le consentement.
Est-ce qu'on choisit de qui on tombe amoureux?
J'ai fait des séances d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle.
Si pour les garçons, c'est le pénis, pour les filles, c'est la... consentement, anatomie, stéréotypes de genre, sexisme, violences sexistes et sexuelles, j'ai abordé tous ces sujets avec eux. Et je les ai enregistrés.
La vulve. La vulve.
Je m'appelle Lolita Rivet. Et après 10 ans de journalisme, je suis devenue instite. Assez vite, j'ai été confrontée à des réflexions sexistes, à des insultes racistes ou homophobes entre les élèves, voire à des agressions. Et puis j'ai remarqué que mes élèves étaient assez ignorants en ce qui concerne leur corps et son fonctionnement. Sans parler du consentement, ça c'est carrément flou.
Tu te rappelles ce qu'on avait dit, que quand on sent qu'on a envie de frapper, qu'est-ce qu'on fait ?
On prend la colère et on l'achète.
Dans C'est quoi l'amour maîtresse ? Je mène l'enquête. Pourquoi si peu d'élèves bénéficient de cours d'éducation à la sexualité en France, alors que c'est un enseignement obligatoire du CP à la terminale depuis 2001 ? Pourquoi y a-t-il tant de résistance ? J'ai donné la parole à celles et ceux qui sont complètement opposés à cet enseignement à l'école, mais aussi à des psys, des chercheurs et des chercheuses qui nous expliquent pourquoi offrir une éducation complète à la vie relationnelle, affective et sexuelle, ça pourrait changer notre société tout entière.
Parler de sexualité à des enfants, c'est déjà leur permettre de mettre des mots sur des choses qu'ils ne connaissent pas.
Et une éducation à la sexualité qui est bien ficelée et bien réfléchie contribue à ouvrir bien grand le champ des possibles.
Eh bien justement, on va les explorer, c'est possible. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Hein. On va tenter d'y répondre durant cette émission, Lolita Rivet et Johanna Smith. Mais déjà, c'est ce que vous dites. Ils sont ignorants, ces gamins de CE1, de 7 ans, sur leur corps, avant de parler de consentement. Ça vous a vraiment étonné, alors hein.
Oui, alors là, c'est des élèves de CE1 qui sont ignorants, mais j'en ai eu aussi de 9-10 ans jusqu'au CM2, ils sont ignorants. Donc le vrai nom, le nom scientifique des parties intimes, ils n'ont jamais entendu. Comment ils fonctionnent, comment ces appareils reproducteurs fonctionnent, ils l'ignorent. Tout ce qui est la question des règles pour les filles qui arrivent quand même assez tôt, elles l'ignorent, les garçons encore plus. Et tout ça, oui, j'étais hyper surprise parce que moi, je savais que c'était le cas quand j'étais petite, mais j'ai 36 ans et je m'étais dit que ça avait évolué,
oui,
que
les enfants étaient... une génération un peu connectée quand même.
Connectée, avec des parents plus au courant qui en parlent à leurs enfants et pas du tout.
Et du coup, que fait l'Instit ? Alors, est-ce que vous dites avec quels mots vous réfléchissez, j'imagine, pour ne pas heurter, mais en même temps, on se parle direct, sachant que vous n'êtes pas forcément outillé, pas forcément formé. Comment se pose la question de la transmission, alors ?
Alors oui, déjà, les profs ne sont pas formés pour faire l'éducation sexuelle. C'est pourtant leur rôle. Hein. Donc, en France, on n'est toujours pas formés, alors que la loi qui oblige à faire ces séances date de 2001. Donc, j'étais encore à l'école, moi, il y a 22 ans. Donc oui, on n'est pas formés, on n'est pas outillés. Donc, ce que j'ai fait, c'est que d'abord, je me suis auto-formée. J'ai lu des livres. Il y a des pays qui font ça super bien, où il y a une grosse littérature scientifique sur la question. Donc, je me suis formée toute seule, motivée par cette idée de faire un podcast. Il fallait évidemment que je sois armée. Et puis, pour dire des choses aux élèves qui soient adaptées à leur langage, à leur niveau de connaissance, à leur curiosité aussi. Après, je me suis beaucoup appuyée sur eux, c'est-à-dire à leur réaction, de quoi ils avaient besoin, quelles étaient leurs questions. En éducation à la sexualité, on utilise beaucoup cette boîte à questions, où ils mettent des petits papiers, ils posent des questions. C'est hyper utile pour voir leur niveau de connaissance, où ils en sont. Et après, il y a plein de livres super bien faits pour les enfants, je me suis appuyée dessus, oui.
Mettre des mots, forcément, ça c'est le rôle aussi de la psy, Johanna Smith. Ça vous étonne, vous, que ces enfants ont du mal encore à comprendre comment fonctionne leur propre corps, et on parlera de consentement après.
Alors ça m'étonne pas tellement, mais peut-être parce que je suis assez sensibilisée. En revanche, ça m'inquiète, parce que ce que j'ai appris en travaillant auprès des agresseurs, c'est que... pour un agresseur, approcher un enfant et se rendre compte qu'il n'a pas les mots, qu'il n'a pas d'éducation sexuelle, c'est un peu horrible ce que je vais dire, mais c'est un peu comme un feu vert. C'est-à-dire, ça leur indique que cet enfant-là n'a pas l'habitude de parler de ça, peut être un peu mal à l'aise, peut avoir un environnement qui est mal à l'aise, qui a moins de probabilité d'écouter s'il y a une révélation. Et c'est aussi un enfant qui a plus de probabilité d'être vulnérable au, entre guillemets, lavage de cerveau qui est généralement utilisé par les agresseurs, c'est-à-dire utiliser des termes inappropriés. C'est pour ça, je pense que Lolita a réagi sur relation tout à l'heure, mais c'est vraiment très fréquent, c'est parler de caresse. C'est une violence sexuelle, c'est pas
d'amour,
des caresses.
Parler
d'amour, dire je t'aime, parler d'un câlin, ce sont des violences. En aucun cas, ce sont des caresses, des câlins ou de l'amour, évidemment.
On parlera effectivement des modes opératoires des agresseurs aussi avec vous. On se retrouve dans quelques instants. On écoute Marthe Pilani-Boubou avec Oumphasi sur RFI.
la bandana a bafondé se. Non on coule ses les velos en taillant que il doit aïe canisse. Non ga soza bachi a bandana ba ke soze baliwe. Bouillon coule sa bandana yena gouillon ga katalio. Abandona back as soze bali well. Who your police abandona yana, who your bakatali yo.
Woman, the one who bears children, the one who births the world, the one who raises earth, the one who teaches us, the one who nurtures us. Woman, 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 she never abandons us. She be the ruler of us, and even when they want everything of her, she gives it to us. Woman, 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 the one who bears children, the one who births the world, the one who raises earth, the one who teaches us, the one who nurtures us. Woman, 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 woman. Woman never abandon us. She be the ruler of us. And even when they want everything of her, she gives it to us. Woman, 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 woman. Woman, she know herself. Woman, she want her strength. Woman, she birthed us. Woman, she rule the world. Woman, she made herself. Woman, 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 woman. Woman, she know herself. Woman, she want her strength. Woman, she birthed us. Woman, she rule the world. Woman, she made herself. Woman, 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 woman.
Marthe Pilani-Boubou avec Omphazi, un titre à retrouver sur la playlist de RFI. Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans 8 milliards de voisins et de voisines. Comment protéger et prévenir les enfants des violences sexuelles? Comment leur apprendre à dire non? On en cause avec nos invités, Lolita Rivé, professeure des écoles et autrice du podcast « C'est quoi l'amour maîtresse ?» sur Binge Audio. Joanna Smith, psychologue clinicienne, autrice du livre « Protéger son enfant des violences sexuelles » aux éditions Duno. On attend vos témoignages au 33 7 64 45 51 41. Et on est avec Eva qui nous appelle de Dakar au Sénégal. Bonjour Eva.
Oui, bonjour, l'équipe RFI, 7 milliards de voisins.
On est 8 bonjour milliards RFI. Maintenant. On est 8 milliards.
Oui, c'est 8 milliards, oui. Mais on a l'habitude de dire 7 milliards c'est de voisins. Ça.
Alors Eva...
Bonjour à tous les auditeurs du monde.
Eva, je vois que vous avez...
Et je profite de l'occasion pour dire bonne fête à tous les musulmans du monde, notamment aux Sénégalais. Voilà.
Eh bien voilà, c'est fait. Alors dites-moi Eva, alors vous êtes entraîneuse bénévole de foot et de karaté pour des enfants de 8 à 17 ans. Il paraît que vous parlez avec eux de sexualité pour les sensibiliser aux agressions. Ils se confient plus facilement à vous, la prof de foot, qu'à leurs parents, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Oui. Qu'est-ce qu'ils vous racontent? Et qu'est-ce que vous leur dites?
Voilà. En fait, moi, déjà, je travaille dans une très grande entreprise du lundi au vendredi. Mais il y a les samedis soir, les samedis matin et dimanche matin,
oui.
Et parfois aussi mercredi soir, j'entraîne les enfants. Donc, quand je les entraîne, après les entraînements, je prends une heure de temps ou bien 30 minutes pour parler avec eux.
Mm-hmm.
Et quand je parle avec eux, je parle tout le temps des cas de viol. Je parle en général de la sexualité. Parce que je leur demande, même si, par exemple, ils sont agressés, qu'ils puissent dire ça aux parents ou bien à une personne proche pour qu'on puisse les protéger. Parce que s'ils retiennent le silence,
oui.
C'est trop dangereux pour l'enfant parce qu'il y aura des répercussions dans le futur.
Ouais.
Voilà.
Sauf que Eva, ça doit être assez compliqué aussi lorsqu'il y a éventuellement des viols dans les propres familles. Je ne sais pas si vous en avez été témoin, si on peut vous en parler, comment ça se passe?
Oui, parfois il y a des enfants qui m'en parlent ils me disent qu'ils ont été agressés.
Oui.
Ils m'expliquent même la façon dont ils ont été agressés sexuellement. Il y a des cas de pédophilie. C'est tout ça, il y a des cas de pédophilie, mais ils n'osent pas en parler.
Oui, bien sûr.
Il y a tellement de cas de pédophiles ici au Sénégal. C'est des gens qui sont agressés par des autorités même, mais personne n'en parle, oui.
Tabou, omerta, oui.
Je vous parle en connaissance de cause. Il y a même des parents que j'avais saisis, mais ils disent que non, faut pas dévoiler ça. Parce qu'une fois, même il y a un enfant, c'était à Diamalay, elle n'est pas enfant parce qu'elle a 23 ans, vous comprenez, elle a été agressée par son mari. Il comprend pas, à chaque fois qu'il faisait l'amour avec elle, il l'étranglait, mais moi j'ai appelé toute la famille pour signaler ce cas-là. Et puis le gars-là ne l'a jamais refait, vous comprenez. Aussi pour les enfants. J'ai dit que le rôle de l'enfant, le rôle des parents, c'est de protéger le progéniture.
Évidemment.
Il ne faut pas laisser un enfant traîner dehors. Il ne faut pas envoyer les enfants dans les boutiques parce que c'est dangereux. Il peut croiser un prédateur. Vous comprenez?
Oui,
maintenant.
En tout cas, heureusement qu'ils vous ont pour pouvoir parler et se confier à vous. Hein. Merci beaucoup pour votre précieux témoignage, Eva, du côté de Dakar. Je vais faire réagir nos invités. Je commence par vous, Lolita Rivé, qui dit enfant, dit aussi parent, et notamment parent d'élèves. Ces cours-là d'éducation sexuelle, relationnelle, sentimentale, je crois savoir que c'est pas toujours très, très, très bien vu aussi par certaines familles religieuses, catholiques ou musulmanes. C'est compliqué.
Oui, la majorité des familles sont très contentes souvent que l'école s'en charge parce que c'est pas forcément un sujet facile à aborder dans le cadre familial. Mais il y a toujours, oui, quelques familles, une minorité qui voit ça d'un très mauvais œil, qui pense que ce n'est pas à l'école d'aborder ces sujets-là, qui ont peur qu'on mette des choses dans la tête de leur enfant, qu'on les pervertisse, qu'on les sexualise, qu'on fasse de la propagande. Voilà, il y a des mots très forts qui sont posés. Et donc des familles qui s'opposent. Alors en France, on a la chance, j'ai envie de dire, que ce soit dans la loi, même si c'est pas appliqué et que ça ne suffit pas. En tout cas, il y a quand même ce bouclier-là, cette protection de... On le fait parce que c'est dans la loi et que c'est pour protéger les enfants.
Ce n'est pas appliqué, pourquoi? Parce que, voilà, parce justement, que les... peur aussi, peur de résistance de certaines associations ou politiques, ou autocensure aussi de la part de certains profs.
Déjà, le problème principal, c'est que les profs ne sont pas formés. Donc, on apprend à faire des maths, du français, de l'histoire, on apprend tout ça. Enseigner l'éducation sexuelle, c'est quand même un sujet hyper sensible et délicat. On n'apprend pas à le faire. Donc, les profs, évidemment, ne se lancent pas parce qu'ils sont assez mal à l'aise et ils ont peur de dire des mots qu'ils devraient pas dire. Ils ont peur, évidemment, d'avoir des ennuis avec les familles. Donc, il y a beaucoup d'autocensure et il y a beaucoup de profs même qui pensent que c'est pas à eux de faire ça, c'est pas leur boulot. C'est-à-dire que s'il y a des gens dans la société qui pensent que c'est pas à l'école de le faire, il y a aussi des profs, puisque la société, les profs sont représentatifs de la société, qui pensent que c'est pas leur boulot, que c'est pas à eux de le faire. Donc, ce n'est pas fait aussi parce qu'on manque de moyens financiers.
Encore une fois, toujours. Johanna Smith voulait peut-être réagir aussi au témoignage de notre auditrice, et puis notamment de la prévention auprès des parents, hein, maillon faible aussi, d'où votre livre d'ailleurs, qui s'adresse aussi à eux.
Tout à fait. Ce qui me frappe dans ce témoignage, ça rejoint la situation en France, c'est si on veut que les enfants révèlent, il faut que leur les personnes auprès desquelles ils révèlent soient soutenues. Mmh. Trop souvent, on ne sait pas vers qui se tourner, on va faire des erreurs, on va, par exemple, ne pas faire constater tout de suite les traces s'il y en a. C'est rare, mais quand il y en a, c'est quand même important de les constater. On ne sait pas vers qui se tourner, on appelle le 119, ça ne répond pas. On a vraiment des grosses difficultés. On peut se tourner vers des professionnels médecins, pédiatres, même psy, qui ne sont pas formés et qui ne vont pas donner les bonnes réponses. Donc je crois que si on veut vraiment favoriser la parole, il faut favoriser le soutien des personnes auxquelles cette parole s'adresse pour les aider à protéger et encourager à croire. Parce que les fausses révélations sont rarissimes. Ouais. En revanche, les agresseurs qui nient les faits sont la très grande majorité.
Et ça, il faut peut-être le répéter. On a un autre appel, c'est Diana Estelle qui nous appelle de Dakar. Bonjour Diana Estelle.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On parlait des parents. Bah vous êtes maman, hein, vous avez deux filles de 4 et 8 ans. Et pour préparer cette émission, vous nous avez dit que vous n'hésitez pas à parler sexualité, d'agression sexuelle avec vos filles. Vous leur en parlez comment? Avec quels mots? Parce qu'on dit que ce n'est pas toujours évident. Comment vous faites?
Oui. Moi, j'essaie de leur faire comprendre que leur corps, il ne faut pas que les gens y regardent. Quand elles doivent s'habiller, elles doivent se cacher. Quand... Par exemple, je leur parle de l'âge de 1 an, de la nénette. C'est quoi la nénette? La nénette, on ne touche pas. Il ne faut pas que les gens regardent ta nénette. Il ne faut pas que les gens y touchent à ta nénette. Il ne faut pas jouer toi-même avec la nénette. Voilà. Ouais. Donc, avec ces mots, elles essaient de comprendre. Et à chaque fois, je reviens à la charge. Qu'est-ce que je t'avais dit à propos de la nénette? Maman, tu as dit la nénette, on ne touche pas, on ne regarde pas, on ne joue pas avec.
Alors, il y a une de nos invitées qui est prof, là, Lolita Rivé, qui vous dit, mais alors...
Pourquoi? Alors, c'est très bien de jouer avec sa propre nénette. Si c'est quelque chose qui est fait dans l'intimité, découvrir son corps, ça fait partie de...
Moi, j'ai peur de ça. Je me dis que ça peut aller vers la masturbation.
Voilà. Oui, la masturbation, c'est pas une violence sexuelle, c'est la découverte de son propre corps qui est complètement naturelle chez tous les animaux et on est des animaux aussi.
J'ai peur qu'après elles prennent l'habitude et que si quelqu'un essaie de toucher à la nénette, qu'elle leur dise pas non.
Ah, ça n'a rien à voir.
Voilà,
oui, d'accord.
Moi, c'est dans ce sens. Voilà. Ouais, donc, peut-être qu'elles vont se dire que c'est normal. Je ne veux pas qu'elles pensent que c'est très normal que quelqu'un vienne toucher à sa nénette parce qu'elle est touchée à sa nénette.
Oui, mais là, donc, le risque, c'est que vous leur mettiez dans la tête que c'est honteux de toucher son propre sexe ou de se découvrir. C'est pas du tout honteux ni sale, en fait. C'est très normal. Et je pense qu'il faut faire confiance aux enfants. Ils font bien la différence entre je me découvre, moi, dans mon intimité et d'autres gens se permettent de me toucher. C'est très, très différent.
Oui, je sais. Mais après, on vit dans un environnement africain, familial, comme on sait d'habitude. Ouais. Il y a des gens qui ont peur, qui n'en parlent pas dans les familles.
Oui, c'est
et ça arrive très souvent. Donc, moi, je suis allée vers ça. Et puis, je leur dis carrément, même pour aller aux toilettes, il ne faut pas que ton cousin il t'accompagne aux toilettes, les petits cousins avec qui elles ont le même âge. Donc, ça, j'évite carrément. Toi, tu vas de l'autre côté, lui, il va de l'autre côté, même pour dormir. Non, vous ne dormez pas ensemble dans le même lit. Donc, parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'après, ils peuvent grandir avec. Et puis après, tu n'as pas le contrôle de tout ce qui se passe dans la maison. C'est après que tu te rends compte qu'il y a ça, il y a ça. Parce que nous, dans notre famille, on a grandi carrément avec nos cousins, mais différemment. On ne nous laissait pas trop jouer avec les cousins. On ne nous laissait pas s'asseoir avec les cousins. Quand on devait jouer avec les cousins, il y avait les oncles qui étaient là à côté, les tantes, les grandes-tantes.
Oui, c'était séparé, pas forcément mixte, hein, c'est ça.
Voilà, les garçons dormaient à part.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Diana Estelle, du côté de Dakar. Pas facile de trouver aussi les mots. On parle aussi de tabous culturels, religieux. Comment d'ailleurs, parler consentement avec des enfants de 7 ans? À chacun ses mots, on va retrouver les vôtres, Lolita Arrivé, dans votre classe de CE1.
Épisode 3. Mon corps, c'est mon corps.
J'aimerais que vous me disiez toutes les manières que vous connaissez de toucher quelqu'un.
Taper. Pousser,
baffer,
voilà, gifler.
Ok, on a que des manières très violentes de toucher là.
Tabasser,
terrasser.
On est sur un combat avec un dragon là. Oui, Margot.
Je suis pas sûre que c'est un verre, mais câliner,
isouiller,
gratter,
faire des guilis,
Frôler.
Quand quelqu'un vous fait ça, en général, votre corps y répond quelque chose. Soit il répond oui, parce qu'il trouve ça
agréable.
Agréable, sympa. Soit il dit
non, ça me fait mal.
Parce qu'il trouve ça
pas agréable.
Désagréable, vous connaissez ce mot.
J'ai demandé à l'infirmière scolaire d'intervenir avec moi.
Je vais vous faire un petit exemple avec Maëlys. Vous allez me dire si le corps de Maëlys, il dit oui ou il dit non.
Là, je la prends dans mes bras.
Non.
À quoi vous avez vu qu'il dit non?
Il y en a deux façons. Déjà, on voit que le geste est bousculant. Et aussi, on voit un peu son visage qui se... Voilà.
Qui se ferme. Ouais, elle a fait une grimace avec son visage. Nouvelle situation, vous allez me dire si ça, elle fait oui ou elle fait non avec son corps.
Encore un câlin, mais cette fois...
Oui!
À quoi vous avez vu qu'elle fait oui? Moi, j'ai pas vu. Hein.
Elle sourit aussi à la rigoler. Hein.
On voit que ses yeux sont contents. Et ses yeux aussi sont en joie.
Eh ben voilà, savoir écouter les émotions du corps qui dit oui ou qui dit non, c'est pas si simple que ça, comme on a l'impression que c'est compliqué, hein, ce mot consentement. Hein. Ça passe par les exercices pratiques aussi, Lolita arrivée.
Oui, c'est vrai qu'ils n'ont jamais entendu parler de consentement encore. L'important, c'est même pas le mot, à la limite, c'est qu'ils comprennent le concept.
Bien sûr.
À savoir de s'écouter et d'être à l'écoute de ce qu'ils voient et de ce qu'ils observent chez les autres. Et de se faire confiance. Moi, c'est le message que je leur disais. Je leur disais, faites-vous confiance. Il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise ou vous n'êtes pas bien. C'est vous qui avez raison, en fait. Peu importe l'intention de l'autre, c'est vous qui avez raison. Après, je complète, parce qu'on va me rétorquer que je fais...
Compléter.
Voilà, je complète. Je complète cette séance, évidemment, en disant qu'un adulte, ou même qu'un autre enfant, n'a pas le droit de leur toucher les parties intimes. Que ça fasse oui ou que ça fasse non dans leur corps, parce qu'il y a aussi des enfants qui m'ont dit, mais si un adulte nous touche, mais que nous, on est d'accord. Donc on leur a bien expliqué, non, c'est interdit, ça ne doit pas avoir lieu, c'est à l'adulte de dire non. Là, on parlait des touchés qui ne concernent pas les parties intimes, à savoir des câlins, le fait de jouer ensemble.
Ouais.
Voilà. Les enfants, souvent, on ne leur apprend pas que ce qu'ils ressentent a de la valeur et a de l'importance.
Ouais.
Par exemple, on leur dit qu'il faut qu'ils embrassent leur famille, leur grand-tante, leur grand-mère, leur grand-père. Il faut qu'ils se forcent à faire des bisous, il faut qu'ils se forcent à faire des câlins. Quand ils ne veulent pas nous faire de câlins, on est vexé, on est triste, on fait du chantage émotionnel, hein, finalement. « Oh, tu ne me fais pas de câlin, je suis triste. » Il faut qu'on arrête, en fait. Il faut qu'on arrête et il faut qu'on dise aux enfants « Si vous n'avez pas envie de faire un câlin, c'est OK, c'est d'accord. Et c'est bien de le faire respecter.
Tout ce travail-là de prévention, d'éducation, ça va aussi pour les enfants, hein, parce que c'est aussi votre partie aussi à vous, Johanna Smith. Dans ce dernier ouvrage-là, c'est pour alerter aussi les parents, détecter, parler avec leurs enfants, parce que mine de rien, et vous l'expliquez, il y a plusieurs types d'agresseurs, il y a plusieurs types de modes opératoires, comme vous dites, mais quand même, il y a des signes qui se détectent.
C'est-à-dire qu'on a 1% des violences sexuelles qui sont commises avec de la violence physique surajoutée. Ça veut dire que la très, très, très grande majorité du temps, on a un autre type de mode opératoire, généralement de la manipulation, de l'emprise, de la menace, du chantage. Rappelons aussi qu'il n'y a que 15% des violences sexuelles sur mineurs qui sont commises par des inconnus. Donc si on enlève le harcèlement de rue dans les transports en commun et le contact par Internet, c'est essentiellement vraiment très largement des proches, donc des personnes généralement connues aussi par les parents. Autrement dit, on va pouvoir dépister un certain nombre de situations. Et si l'enfant a l'habitude d'être, a des habitudes saines, enfin qu'on a des habitudes saines dans notre façon de traiter l'enfant, et par exemple, comme Lolita vient de le dire, de ne pas le forcer à des contacts corporels qu'il ne souhaite pas. Le jour où un adulte commence à tâter le terrain en étant mal intentionné pour voir un peu quelles sont les limites de cet enfant, l'enfant a de fortes chances de tout de suite tiquer, de tout de suite signaler le problème, de tout de suite venir interroger son adulte de confiance pour dire bah, « Tu sais, c'est bizarre, mon prof du cours du soir, il m'a pris sur les genoux. » Alors que l'enfant a 12 ans. Enfin, ou bien il m'a accueilli en peignoir. Vous voyez, des choses qui ne sont pas des agressions sexuelles, mais qui sont des signes précurseurs, ou en tout cas des situations préoccupantes, auxquelles il est temps de mettre fin. Et souvent, on a tendance à
minimiser,
à éviter les ennuis, à soi-même pas vouloir dire non ou pas se confronter par de conflits. Or, l'enfant, il apprend par la pratique et il apprend en nous imitant. Si moi, j'ose pas dire non et que je le maintiens dans une situation qui est limite où son corps n'est pas respecté, c'est très problématique.
On continue à parler des préventions de violences sexuelles en milieu scolaire, mais cette fois-ci du côté de la Côte d'Ivoire.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
Et nous sommes en ligne avec Prince Trabi, qui est psychologue clinicien et coordinateur de l'association Psytrotteur à Abidjan. Bonjour Prince Trabi.
Bonjour, bonjour tout le monde. Comment vous allez ?
Eh bien, on va plutôt bien. Merci d'être avec nous. C'est une association de jeunes psychologues comme vous qui intervient dans des ONG, des entreprises et donc des écoles, des collèges et des lycées. Puis tout à l'heure, je ne sais pas si vous écoutez notre émission, voilà, on parle de la façon de... utiliser quels outils, quels mots pour parler violence sexuelle en milieu scolaire. Vous, alors, en tant que psy, j'imagine que vous n'utilisez pas forcément les mêmes mots si vous intervenez dans une école ou dans un lycée. Comment vous faites, hein?
En tant que psy, nous intervenons dans des écoles avec des mots plus simples, adaptés aux enfants.
Oui.
On va utiliser plus les figures de style, du genre le corps est comme un jardin. Il faut en prendre soin et accepter qui doit rentrer, qui ne doit pas refuser, qui ne doit pas rentrer.
Oui, c'est ça. Et pourquoi ? Parce que vous pouvez pas utiliser, il y a trop de tabous, vous pouvez pas parler de questions de sexualité de façon plus directe.
Oui. On ne peut pas, surtout en conférence, dire directement, utiliser des thèmes de la sexualité sera compliqué.
Oui.
Et puis, bon, donc ça fait qu'on est obligé d'utiliser des
métaphores.
Des métaphores, tout pour qu'ils puissent comprendre.
Et se sentir peut-être plus à l'aise. Vous utilisez, je crois savoir, un violentomètre. Comment ça fonctionne ? Racontez-nous.
Le violentomètre, c'est un outil qui décrit les comportements violents, du plus, les comportements sains au plus abusif. Donc, c'est les comportements qui se passent dans la relation. Et on a une organisation qui a adapté le violentomètre en outil. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Non, honnêtement, non. Mais ça marche comment ? J'ai du mal à comprendre en fait comment il marche cet outil.
C'est une échelle. On part de la couleur verte à la couleur rouge. Donc, comme j'ai dit, du comportement sain au comportement abusif. Et on demande aux enfants de lire afin de repérer en fait le comportement qui sont victimes.
Ouais. Je vais faire, restez avec nous, hein, bien sûr, Prince Trabi. Je crois que mes invités connaissent hein, cet outil, le lit arrivé. Vous connaissez, vous ?
Oui, c'est vraiment une échelle de couleurs qui permet de déconstruire ce qui est de la violence de ce qui n'en est pas. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on a intégré plein de comportements violents comme étant des comportements normaux, notamment dans les relations amoureuses. Et donc, c'est des exemples très concrets. Ok, ton copain ou ta copine, mais plus souvent ton copain, contrôle tes réseaux sociaux ou lit tes messages. Est-ce que c'est une violence ? Est-ce que c'est déjà pas normal ?
Ouais, d'accord.
Donc, il va y avoir une couleur orange pour ça, et afin que les jeunes, notamment, détectent ce qui n'est pas normal dans une relation. Et là, ils doivent déjà mettre des limites et puis s'alarmer et dire non.
Vous voulez peut-être réagir à ce que dit votre confrère Joanna Smith, qui est psy comme vous, et qui dit bon, bah voilà, nous on utilise aussi des métaphores. Vous voulez peut-être réagir ?
Ben, je voulais réagir sur le violentomètre parce qu'effectivement, il y a un continuum des violences et c'est vraiment l'idée de la prévention, c'est de voir la zone orange arriver en fait, parce que généralement, on passe pas du vert au rouge du jour au lendemain. Et je trouve que ces outils sont extrêmement utiles et que d'avoir ça en tête pour les parents sans forcément prêter des mauvaises intentions, se dire ah, celui-là, il a l'intention de violenter sexuellement mon enfant. Non, il veut pas forcément passer au rouge, mais ce qui s'est centré sur l'enfant, comment j'apprends à mon enfant qu'il mérite d'être dans le vert.
Ouais, c'est ça.
C'est une bonne habitude à lui donner. En
fait. Et pour terminer, Prince Trabi, au-delà des psys comme vous qui intervenez en milieu scolaire, est-ce qu'il y aurait besoin chez vous d'autres dispositifs à Abidjan notamment ? Est-ce que c'est d'abord une question de la violence sexuelle envers les mineurs qui est assez prise en question par les pouvoirs publics ou les directeurs d'établissements scolaires ? C'est une vraie question ou pas tant que ça ?
C'est vraiment une vraie question. Le phénomène de violence sexuelle sur les enfants.
Oui.
Et on a des structures, je ne sais pas si je peux dire un nom.
Bien sûr.
À Kwaba Mousseau, par exemple, où je travaille, j'interviens là-bas deux fois par semaine, où nous recevons en moyenne des enfants, par semaine, trois enfants.
Ouais.
Victimes de violence soit par un proche, par un parent ou même un inconnu dans le quartier.
Bien noté. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage, Prince Rabhi, et belle journée du côté d'Abidjan. On va écouter un dernier message vocal d'un auditeur voisin.
Bonjour, je suis Nojitbay Akshay de Théodore de N'Djamena au Tchad. À mes enfants, il y a un pléthore d'obligations pour éviter les agressions sexuelles telles que l'habillement, éviter de porter les habits laissant les parties sensibles du corps dehors, comme les cuisses, les poitrines ou les dos. Éviter de s'isoler, rester toujours en famille ou en groupe avec les frères et sœurs à l'école, puisqu'ils fréquentent toujours les mêmes établissements scolaires ou bien à l'église. Ne faire confiance à personne comme les amis de l'église, les amis de l'école ou les amis du quartier. Éviter de rester toujours dehors aux heures tardives, même en groupe. Éviter systématiquement les mauvaises compagnies accro de l'alcool, du sexe et de la drogue. Ne jamais consommer l'alcool et de la drogue. De me parler toujours d'une tentative d'agression, d'une quelconque intention d'agression.
Merci beaucoup Théodore, archiduc de N'Djamena. S'habiller correctement, se méfier de tout, même des gens de l'église. Il nous reste 3-4 minutes. Votre réaction, Johanna Smith, vous qui vous adressez aux parents, c'est pas non plus de devenir totalement paranoïaque, non, mais...
Exactement, se souvenir que la plupart des adultes sont bien intentionnés, que les parents ont un grand rôle à jouer, qu'on n'a pas à faire porter la responsabilité aux enfants. C'est d'abord aux parents de protéger, de s'informer, de surveiller et d'apprendre à dire non. Et aussi de rappeler que c'est pas parce qu'on a été victime de violences sexuelles que c'est notre faute. Je crois que c'est très important de se dire parce que je suis sortie à telle heure, parce que j'avais bu. C'est souvent des mentalités, des logiques qui sont utilisées par l'agresseur pour justifier les faits et faire porter la culpabilité à la victime. C'est important d'être au clair là-dessus.
On finira avec la culpabilisation. En quoi, Lolita Rivet, vous êtes convaincue que cette éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, ça peut vraiment changer la donne, en tout cas par rapport à tout ce qu'on vit aujourd'hui, la fameuse racine, les racines du mal.
Bah pour moi, ça peut tout changer, parce que dans les familles où cette éducation est faite, c'est super, mais c'est vraiment pas la majorité. Et donc l'école, qui accueille quand même 99% des enfants en France, métropolitaine, dans le public ou le privé, peut jouer ce rôle-là, vraiment. Ces enfants, ils sont dans nos classes. Les enfants agressés sexuellement, ils sont dans nos classes. Le sexisme, il est à l'école.
Mais vous avez remarqué, par exemple, très concrètement, changement de comportement de vos élèves, au bout d'une année ou pas, de ce genre de cours ?
Bien sûr. Des enfants qui se mettent à détecter des comportements sexistes, à mettre des mots dessus alors qu'ils ne l'avaient pas du tout avant, qui deviennent hyper remontés contre des inégalités de genre ou les stéréotypes de genre qui existent, des enfants qui vont signaler des situations de violence même dans la cour alors qu'avant ils auraient
aussi, hein,
ils auraient trouvé ça normal. Donc des enfants informés, ce sont des enfants plus protégés. On ne va pas dire que le risque zéro n'existe pas, mais ils sont au moins protégés parce qu'ils sont au courant, parce qu'ils sont au courant de leurs droits. Donc là, on n'en parle pas, mais notamment les violences intrafamiliales, les enfants ignorent qu'on n'a pas le droit de les taper, qu'on n'a pas le droit de les violenter. Donc des enfants qui sont au courant de leurs droits sont plus protégés parce qu'ils vont... cette histoire du violentomètre, ils vont comprendre en fait que la situation qu'ils vivent n'est pas normale, qu'il faut en parler, qu'il faut réagir, que c'est eux qui ont raison. Et même dans leurs relations entre eux, dans les adultes, les ados, les adultes qui vont devenir, ce sera des relations beaucoup plus égalitaires, puisqu'on aura déminé tout ça, on aura déconstruit plein de choses.
Encore une fois, c'est une question d'ignorance, ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, Johanna Smith, et des enfants et des parents aussi. Hein.
Exactement. Tout ce qui va favoriser la prise de conscience de « c'est pas normal, je mérite pas d'être traité comme ça », et qu'il y a des gens là-dehors auprès de qui on peut parler, va favoriser la prévention.
Une collaboration prochaine entre vous ou pas ?
Avec plaisir. Moi, ça me tente bien, puis tout à l'heure, ça me trotte, oui.
20 secondes, vous avez le soutien de votre établissement, de votre direction scolaire ou pas ? Parce qu'on parlait de la difficulté avec les parents, mais c'est compliqué aussi.
Oui, je l'ai, mais voilà, les chefs d'établissement sont aussi frileux que les profs. Hein, et ils ont peur aussi des familles. Et puis, tant qu'il n'y aura pas de moyens, et puis un État et un gouvernement et un ministère de l'Éducation nationale très fort et clair sur ces questions-là, les gens sur le terrain oseront pas y aller.
Le message est bien passé. Merci beaucoup, en tout cas, Lolita Rivet. Je rappelle que vous êtes professeure des écoles. Et puis vraiment, ça réécouter ce podcast, C'est quoi l'amour maîtresse ? C'est sur Binge Audio. Et merci, Johanna Smith, psychologue clinicienne, autrice du livre « Protéger son enfant des violences sexuelles » aux éditions Dunod. Et c'est aussi le titre de votre podcast. Merci à toutes les deux.
Merci.
Allez, on se quitte avec le Congolais Freddy Massamba avec « Brouillé Lélé » sur RFI. Kana putiri ko bagunge ni bala Mbomi songo na wanata myo Kana lendele ko bagunja funi me Kyonso ki matena ntangwa nje Kana tungiri ko ni babe kateketa Tumbu che kombolungo mbesa Kana zebele ko ni mebe ka jafuna Bini yanti mele zengo so Ntama lundi nilanga tiamu Kaluleni ko mwisa membemba Mwani yele umilwa miabantu yanti Kaluleni ko mwisa membembe Freddy Massamba avec Bouillé Lélé sur RFI. Merci à toute l'équipe, Romain Dubrac, Juliette Brault, Delphine Cachin et Tom Malky. Demain, à la même heure, vous retrouverez Emmanuel Bastide pour parler développement d'entreprises en Afrique avec, comme d'habitude, Didier Akwete, président du cabinet Afrique Search. Et puis, si vous-même, vous êtes jeune entrepreneur et vous avez besoin de conseils pour développer votre entreprise, vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. On se retrouve vendredi. Belle journée à l'écoute de RFI.